Depuis quelque temps, nous partageons sur certains principes du leadership. Alléluia. Et je crois que nous évoluons au fur et à mesure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par tout ce que nous voyons les mercredis? Alléluia. Vous savez, la croissance de l'Église est liée à la qualité de son leadership. Vous devez le savoir. La croissance de l'Église est liée à la qualité de son leadership. Un mauvais leadership, un mauvais peuple. Et c'est la même chose dans toutes les nations, c'est la même chose dans toutes les entreprises. Alléluia. Si la tête est pourrie, tout le bas, ça s'écroule comme un château de cartes. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a pris 3 ans pour former un leadership à qui il devait confier la suite de l'évangélisation du monde. Alléluia. Donc nous comprenons par là que le travail que nous faisons et que vous vous joignez à cela est primordial, même pas seulement pour que vous soyez leader dans cette commission, mais partout, dans tout ce que vous établissez au quotidien. Alléluia. Si vous ne comprenez pas la notion du leadership, vous ne serez pas un bon frère, une bonne sœur, un bon responsable de famille. Tout ça, c'est lié à ce que nous sommes en train de partager depuis quelque temps. Alléluia. Et vous voyez, depuis quelque temps, dès le départ, nous a été donné par notre pasteur, le pasteur Emmanuel, qui nous a beaucoup entretenu sur le caractère. Alléluia. Nous avons commencé depuis sur le caractère, les qualités essentielles d'un leader, les qualités essentielles, les qualités essentielles. Le don n'impressionne pas Dieu, le caractère bouge le ciel. Alléluia. Le caractère bouge le ciel. Beaucoup de gens ont des dons exceptionnels, mais meurent prématurément parce que le caractère ne s'aligne pas au don. Alléluia. Le caractère. Le caractère. C'est pourquoi nous devons prendre du temps pour travailler notre caractère. Eu égard de ce que nous écoutons, nous rentrons, nous travaillons. Les parties où le Saint-Esprit, par les messages, par les enseignements, met le doigt, on travaille. On laisse tomber. Amen. On laisse tomber pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Parce que nous voulons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Et c'est très important. Alléluia. Donc, continuons. Continuons à grandir. Continuons à grandir. Et il y a ce passage de Matthieu 10, le verset 24 au verset 25, que je voudrais qu'on comprenne déjà ça. Matthieu 10, le verset 24 au verset 25. Nous continuons à parler sur le caractère, hein, ce soir encore. Amen. Le caractère et les qualités essentielles, essentielles, essentielles du leader. Alléluia. Et donc, lorsque nous regardons ce texte, la Bible dit, Matthieu 10, 24 à 25. Amen. Est-ce que vous y êtes? Ça va? Ok. Je vais lire au nom de Jésus. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Alléluia. Voilà, asseyons-nous bien-aimés. Alors, nous regardons ici que ce texte est d'une grande importance. Je vous l'ai dit une fois ici que il y a deux choses qui ressortent dans ce texte. La première chose, c'est que ça fait, ici, le Seigneur lui-même fait référence à lui-même comme l'enseignant et le maître que nous devons essayer d'imiter. Amen. Essayer d'imiter. La deuxième chose qui ressort de ce texte, c'est qu'il dit en principe que dans l'Église, nous ne devons pas entrer en compétition avec nos leaders. Nous devons nous efforcer d'être comme eux. Amen. Alors, notez ces deux mots, imiter et être comme eux. Imiter et être comme eux. Mes bien-aimés, la chose la plus importante que vous devez copier chez un leader, c'est le caractère de Jésus en lui. Amen. Alors, on va voir des leaders On va voir des personnes suivre des leaders et marcher comme eux parce qu'ils marchent comme ça. Nous, si on marche, alléluia. Parce qu'on croit que c'est une démarche présidentielle. Amen. Non. Il y a des choses dans ton leader qui ne doivent pas t'amener, pas du tout, à mal parler ou à calomnier son nom. Non, non, loin de là. Mais il y a des choses que tu dois prendre et des choses que tu dois laisser. Amen. Et les choses que tu dois le plus prendre du temps à copier des biens dans la vie d'un leader, c'est le caractère. C'est le caractère. C'est le caractère. Si ton leader est doux et que tu es toujours colérique, tu as un problème. Soit tu n'écoutes pas et tu ne suis pas la bonne personne. Est-ce qu'on est ensemble? Si ton leader est généreux et que toi tu es toujours chiche, tu as un problème. Alléluia. Si ton leader est, je ne sais pas, on peut prendre quel exemple? Humble. Et que toi, tu es toujours orgueilleux. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Et vous allez donc voir des personnes qui vont faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire même 10, voire même 15, auprès d'un serviteur de Dieu, mais ne jamais avoir son caractère. En termes d'humilité, en termes de simplicité, en termes de vérité, lui fait autre chose. Et c'est là où le problème se trouve. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Alléluia. Alors, la dernière fois, le pasteur Emmanuel nous a entretenus sur la première qualité essentielle du leader qui était la discipline personnelle. Nous en avons longuement parlé. Alléluia. Ensuite, il nous a parlé de la sagesse. Il nous a parlé sur la sagesse. La dernière fois, moi, je nous ai entretenus sur la vision. C'est ça, n'est-ce pas? Et ce soir, nous allons prendre une autre qualité qui est la décision. La décision. Alléluia. Je voudrais que vous soyez vraiment attentifs à ce que nous allons partager parce que cette partie est plus qu'importante pour un leader. Un leader qui n'a pas la capacité de prendre de bonnes décisions, va détruire les gens. Après la vision, il faut le bilan. Puis prendre des décisions. Alléluia. Il arrive des fois dans ta marche, dans ton leadership, peut-être à la maison, peut-être en famille, tu dois prendre des décisions particulière. Et parfois même, ça ne fait pas l'unanimité de tout le monde. Mais tu dois prendre des décisions parce que tu as une vision pour le lendemain. Amen. Tu as une vision pour le lendemain. Et parfois, celui qui est à côté ne comprend pas beaucoup pourquoi tu prends une telle décision aussi compliquée par rapport à X ou Y situation. Et c'est de ça que nous parlons ce soir, bien-aimé. La décision. La décision. Alors, je voulais nous donner 3 principes qui doivent gouverner notre décision. 3 principes qui doivent gouverner tes décisions. Le principe premier d'une bonne prise de décision est de connaître les faits. Amen. De connaître quoi? Les faits. Les faits. Ne prends pas une décision sur une chose que tu n'as aucune maîtrise de la situation. En tant que leader, tu dois connaître les faits. Ne prends jamais une décision sur l'emprise des émotions, sur l'emprise des on-dit, sur l'emprise des X ou bien des Y situations. Non, tu dois avoir tous les faits entre les mains. Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. Proverbe 18, le verset 13. Il dit ceci, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Et s'attire la confusion. Je reprends. Il dit celui qui répond avant d'avoir écouté. À peine ça, non, tu prends des décisions, tu prends, et puis quand tu reviens, plus tard tu comprends, les faits te sont révélés dans son entièreté, la honte, Ceci nous donne de comprendre qu'un leader ne doit pas être gouverné par ses émotions. Un leader ne doit pas être gouverné par ses sentiments en priorité. Parce que de toute manière, tes émotions et tes sentiments vont intervenir à un moment ou à un autre. Mais en priorité, ça ne doit pas être le fondement. Tu dois avoir la connaissance des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle se comporte comme elle se comporte? Alléluia! Alléluia! Alors tu es leader. À peine tu entends une chose, tu as déjà pris des décisions. Tu as déjà raconté à gauche, tu as déjà raconté à droite. Tu n'as même pas pris le temps d'évaluer l'histoire que tu as écoutée. Et c'est comme ça que vous allez vivre des séparations. Vous allez vivre des confusions. Vous allez vivre des conflits inutiles. Parce qu'on s'est hâté de prendre des décisions. Je ne vais plus jamais lui parler. Je ne vais plus jamais l'adresser la parole. Non. Non. Si nous sommes des fils et des filles du royaume, nous devons parler. Amen. Et en tant que leader, avant de prendre quelle que soit la situation, écoute tous les faits. Écoute tous les faits. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Alléluia. Le deuxième principe de la prise de décision, bien-aimé. Le deuxième principe de la prise de décision, c'est d'être ouvert aux idées neuves, aux idées nouvelles. Être ouvert aux idées neuves. Vous voyez, il y a des leaders qui sont calés dans leur histoire, qui ne veulent même pas que ça change. Il y a des leaders que si tu ne fais pas comme il a dit, il n'entend rien, il n'écoute rien. Non. Tu dois être un leader qui veut être avancé avec Dieu, doit être ouvert aux idées neuves. Oui. Parfois, l'idée est la bonne. Elle ne viendra pas forcément de toi. Hein? Alléluia. Alléluia. Je prends un exemple. Regardons dans le livre de Deux Rois, chapitre 5. Deux Rois. Chapitre... pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, ok. Deux Rois. C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Deux Rois, chapitre 5. Ok. Regardez cette histoire. Au verset 2, le verset 1 et 2. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, le verset 2, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui est au service de la femme de Naaman. Écoutez le verset 3. Et elle dit à sa maître, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Qui a donné l'idée de la guérison? Qui a donné l'idée de la guérison? Alléluia! Si Naaman était réfractaire aux idées nouvelles, il serait resté dans sa lèpre, n'est-ce pas? Maintenant, continuons la lecture. Retrouvons-nous au verset 11. Alléluia. Prenons le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Et Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Vous voyez, il avait déjà ses idées. Il avait déjà le mécanisme de sa guérison. Il avait déjà le canevas par lequel il devait acquérir la guérison. Mais Dieu n'était pas dans ça. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens viennent à l'église avec leur canevas de guérison, avec leur canevas de délivrance, avec leur canevas d'élévation. Et Dieu doit casser ça pour introduire son programme dans leur programme. T'as dit non, l'année prochaine, il faut que j'aille à l'étranger. L'année prochaine, il faut que je me marie. Dieu n'est pas dans ça. Mais dans cette histoire-là, Dieu doit mettre son programme. Alléluia. Il pousse, il dit, ok, tu vas te marier, mais on pousse un peu en arrière. On pousse un peu en avant. En attendant, tu commences d'abord par faire un petit job. Tu vas d'abord à l'école. Alléluia. Alléluia. Et écoutez la suite. Le verset 12, les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Deuxième fois, il a failli passer à côté de sa délivrance parce qu'il avait des idées anciennes. Et c'est encore un de ses serviteurs qui va lui dire, ah Seigneur, mon Seigneur, ne te fâche pas. La fin, c'est quoi? Tu veux la guérison, non? Ça te coûte quoi de te plonger? Ça va te gratter? Ça va enlever quoi sur ton corps? Il dit, mais c'est même vrai. Il dit, plonge-toi. Si ça marche, ça a marché. Si ça ne marche pas, personne ne t'a vu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Les leaders qui croient qu'ils ont l'idée, c'est eux qui doivent avoir la dernière parole. Tu as échoué. Tu as échoué. La réussite d'un leader vient de sa capacité à amplifier les dons de ceux avec qui il travaille. Ah. Alléluia. Alléluia. Jésus a amplifié les dons de ses disciples. Il a passé le temps à prier pour eux. Jusqu'à la dernière minute, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, ah, je t'aime. Il dit, ok. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, j'ai dit oui. Il dit encore, Pierre, m'aimes-tu? Il dit que, il ne répond plus. Il dit, Pierre, tu sais pourquoi il t'a posé la question? Parce que tu vas, dans quelques temps là, tu vas me régner. Mais c'est pas un problème. J'ai prié pour toi. Parce que Satan t'a réclamé. Et quand tu vas revenir, fortifie tes frères. Fortifie tes frères. Alléluia. Alors si tu crois que tu es un leader qui est descendu tout droit du ciel avec les deux mains de Dieu sur ta tête, tu as échoué. Un leader est grand à cause de ceux avec qui il travaille. Un leader est puissant à cause de ceux avec qui il travaille. Si David était un mauvais leader, ben, il serait mort prématurément. Mais à cause des leaders qui étaient à côté de lui, les 37 vaillants hommes, David est devenu le roi que nous connaissons aujourd'hui. Parce que ces 37 hommes ont veillé sur sa vie, jour et nuit. Ont pris parfois des décisions tragiques pour mettre la vie de David en sécurité. Est-ce que David était le plus sage? Non. Mais il avait le leadership sur lui. Alléluia. Et Abishaï, son neveu, le fils de Seruja, va dire que non, à partir du moment où il y a cet ennemi qui a voulu le tuer, il a dit que non, à partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus en guerre avec nous, de peur que la lampe d'Israël ne s'éteigne. Alléluia. Il a protégé la vie de David. Bien-aimé. Alors, si tu penses que parce qu'on t'a nommé, on t'a donné la grâce d'être leader dans un département, dans une responsabilité, ça fait de toi le tout puissant, ça fait de toi le plus sage, ça fait de toi le plus intelligent, c'est faux. C'est faux. En général, la première caractéristique qui pousse à choisir quand un leader, c'est sa capacité à garder les autres. Alléluia. C'est sa capacité à garder tout le monde dans la maison. Non. Je m'en fous. Moi, il part à gauche. L'autre part à droite. L'autre s'arrête. Tout, on garde. Ça, c'est pas un leader. Ça, c'est un destructeur. Est-ce qu'on est ensemble? Amadani est le responsable d'un département où elle est avec toutes ses sœurs. Mais parce que elle veut que les dernières décisions sortent par sa bouche. Dieu Saint-Esprit. Vous savez, il y a d'ailleurs quelqu'un qui a pris ce titre-là. Et la personne est au Bénin. Elle s'appelle Dieu Saint-Esprit. Donc le titre, elle est déjà pris. On l'a pris, c'est déjà une franchise. Si tu utilises ça, c'est qu'on va te porter plainte. Cherche un autre grade. Non. Un leader doit avoir la capacité de ramener tout le monde sur la table des négociations jusqu'à ce qu'on trouve un consensus qui va nous faire avancer ensemble. Ensemble. Alléluia. Quitte à mettre même tes propres émotions à terre. Regardez Jésus, le leader par excellence. Il raconte une parabole, il dit, un homme avait ses brebis, il en a perdu un. Il a laissé les 99, pas à l'air libre, hein? Non. Il les a mis à l'abri. Maintenant, il est parti chercher la dernière qui s'était égarée. Combien d'entre nous, en tant que leader, cherchons les frères et les sœurs qui ne viennent plus? Combien de nous, en tant que leader, cherchons les bien-aimés qui ne sont plus là? Alléluia. Parti, c'est parti. Gogo na gogo. Comme on dit au quartier. Alléluia. Combien de nous, en tant que responsables, prenons le temps d'appeler ces personnes et de les encourager? Il y a des personnes qui ne viennent plus tout simplement parce qu'ils sont découragés. Hein? Et si toi tu les appelles, tu les encourages, ils vont continuer à venir dans la présence de Dieu et tu vas sauver une âme. Je prends un exemple. Regardez le couple Mbongi aujourd'hui. Si le frère Martial n'avait pas fait le suivi, il serait marié aujourd'hui. Non, disons-nous la vérité. Alléluia. La sœur était partie. Amen. Mais il a pris, ma sœur, tu ne viens plus. C'est comment? La gloire de Dieu descend. Il faut venir. La présence de Dieu te cherche. C'est vrai, il avait ses intérêts derrière. Mais et il l'a ramené dans la maison. Alléluia. Il l'a ramené dans la maison. Et plus tard, dans sa maison. Alléluia. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Amen. Croyez que la chèvre ne broute pas là où elle est attachée. Elle doit aller que chez le voisin brouter. Dieu l'a trouvé là. Il veut ça ici. Il ne veut pas ça dehors. Amen. Bien-aimé. Troisième principe d'une bonne décision. D'une bonne prise de décision. Et cela consiste à prendre connaissance des deux aspects de l'histoire. Des deux aspects de l'histoire. Bien-aimé. Tout à l'heure, le deuxième principe, je nous ai donné un texte. Je vous ai donné plusieurs textes. Prenez encore Proverbe chapitre 18, le verset 15. Proverbe 18, 15. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Alléluia. Alors, le troisième principe d'une bonne prise de décision consiste à prendre connaissance des deux aspects de l'histoire. Oui, mes bien-aimés. Ne prends jamais une décision si tu ne connais pas les deux parties de l'histoire. Alléluia. Jamais. C'est qu'on va te tourner en bourrique. On va te tourner en bourrique. Proverbe chapitre 18, le verset 17. Proverbe 18, le verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Amen. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Alléluia. Oui. Quand mon beau voit à la maison, hein, et il bagarre avec sa grande soeur dans la chambre, et il tape l'œil de sa grande soeur, pam! Et sa grande soeur le gifle, paf! C'est une réaction normale, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il sort direct de la chambre avec un grand cri. Wow! La maman, quand elle sort, quand Danny Blanc sort, qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant? Qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Elle ne veut rien comprendre. Et lui, quand il pleure maintenant, il monte seulement là où on l'a dosé. Il crie. Parce qu'il veut que sa cause soit la seule qu'on écoute. On n'écoute pas sa sœur. Alléluia. Mais si tu dis, calme-toi, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens. Tu dis à sa grande sœur, viens, raconte. Quand elle va vouloir raconter, lui va seulement ouvrir la bouche. Waouh! Pour couvrir, pour que je souffre. C'est amen. Et la Bible dit, attention. Et c'est la même chose que nous voyons à l'église. La première personne qui vient toquer à mon bureau. Papa, je vais te parler. Alléluia. Si tu n'écoutes pas la deuxième partie, tu vas avoir l'impression que l'autre c'est Satan. Alors que peut-être tu as même Satan devant toi. Mais parce qu'il est venu en prier, en premier. Alléluia. Mais si tu dois prendre la décision simplement sur la base, c'est une chose qui est très importante et qui est valable même dans les questions de couple. Hein. Ne réglez jamais une question de couple un seul côté. Hein. Vous allez avoir honte. Alléluia. Quand le ou la arrive dans ton bureau, tu dis, ok, j'ai compris, fais venir l'autre. Ah, ok, d'accord. Et c'est souvent compliqué quand, pardon, je ne veux pas qu'il ou elle soit au courant que j'étais là. Je règle alors comment? En esprit. Quelqu'un est venu dans mon bureau récemment ici et m'a demandé de régler une question qu'elle a dans une relation avec quelqu'un que je connais et elle ne veut pas que la personne sache qu'elle est venue me voir. Elle dit vraiment... Je crois qu'il y a des personnes sur Facebook pour vous aider dans les choses comme ça. Alléluia. Moi, je prêche la parole. Je ne connais pas régler les questions de concubinage. Je n'étais même pas au courant que vous étiez ensemble. Donc, toi, tu viens m'informer. Ah, quand tu es pasteur, tu encaisses ces histoires. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, alors fais attention d'écouter une partie avant pour prendre une décision. Donc comme tu es ma personne, vraiment, je suis d'accord avec toi. Tu as réagi comment? Ah, si c'était moi, j'allais bien l'insulter. Non. Alléluia. C'est pourquoi en tant que leader, on ne doit pas prendre parti, sinon le parti de Dieu. Sinon, le parti de Dieu. Alléluia. Le parti que tu dois soutenir, c'est le parti de Dieu. Alors, revenons un peu à notre exemple avec mon bombo et sa grande sœur. Revenons un peu à cet exemple. Alors, si maman Dani se lève, elle prend sa fille aînée, bam, ça va laisser une marque dans son cœur. Elle va comprendre que, maman a son préféré. Et si ça se répète une, deux fois, et remarquez, quand l'enfant va venir, elle va dire, qui a touché mon enfant? Qui a touché mon enfant? Donc moi, je ne suis pas ton enfant. Hein? Donc je ne suis pas ton enfant. Ça va créer une cassure et une haine va naître à partir de ce moment. Et la personne va vivre comme ça avec sa sœur pendant 20 ans, 30 ans. Un matin, sa sœur va dire, ouais, aide-moi, dit, ah, n'est-ce pas, va chercher ta mère. Et un jour, toi, la maman, tu vas vouloir faire quelque chose pour ton fils, pour ta fille. Ta fille va dire, non, je suis pas ta fille. Tu l'as dit il y a longtemps. Tu vas dire, hé, ma fille, je disais ça seulement comme ça. Va chercher ta fille, ton fils, pardon. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, entre les enfants, vous devez régler dans la justice. Alors, même si on a tapé son œil, il se calme. Maintenant, on met le dossier à terre. Viens. Toi-même là, tu as un petit piment. Approche ici. demande pardon à ta sœur. Amen. C'est déjà un premier comportement de brisement. Alléluia. Quand il va se rendre compte que tu ne prends pas parti sur n'importe quoi, les prochaines fois qu'on va le claquer, il va plus crier à haute voix. Parce qu'il sait que ça ne va pas lui être profitable. Amen. Manipulé par vos émotions. Alléluia. Et avoir un parti pris. Ah, tu es ma mère, tu es ma mère, tu es... Amen. Ça va jouer sur ton jugement au moment où il faudra prendre une décision. Alléluia. Ça va jouer sur toi. Je me rappelle une histoire que maman m'avait racontée une fois. Dans son lieu de travail, elle travaillait avec un collaborateur qui était chrétien comme elle. Amen. La personne, il savait qu'elle est ensemble, amen, ils sont dans les alléluia, alléluia, amen. Mais il faisait mal son boulot. Et quand le moment est venu, on l'a interpellé plus d'une fois, c'est ça, n'est-ce pas? On l'avait interpellé plus d'une fois. Et on voulait réduire l'effectif. Quand sa candidature est venue sur la table, tout le monde a dit que non, chassez-le. Amen. L'autre jour, j'étais avec des pasteurs. Il y a un pasteur qui travaille, qui est cadre à la CNPS, avec qui on était hier, avant-hier. Et il nous dit que dans son lieu de travail, il avait une collaboratrice qui est sous lui. Et cette collaboratrice a su que lui, il est pasteur. Amen. Donc, chaque fois qu'elle arrive au bureau, Et elle mettait toujours sa Bible, elle ouvre sa Bible sur son bureau comme ça. On est même, on est du royaume. On est du royaume. Alléluia. Et il nous raconte qu'il avait son chef qui lui demandait un dossier. Et ils étaient déjà en retard pour boucler le dossier. Et la dame, elle devait intervenir dans ce dossier d'une manière particulière. Alors il est allé voir la dame, il lui dit, s'il te plaît, mais tu n'as pas aimé la Bible sur la table. Il lui dit qu'écoute, elle convoque l'écriture. Il lui dit que non, tu sais, moi je n'ai pas besoin d'ouvrir la Bible pour te parler parce que moi-même qui te parle, je suis la Bible. On doit rendre compte à notre chef. Et si toi tu ne fais pas bien le travail, je te sanctionne. Alléluia. Je te sanctionne. Et c'est ça le problème aujourd'hui. On croit que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas sanctionner son frère chrétien. Alors que le frère chrétien fait le faux travail. fait la malhonnêteté, n'est pas sérieux. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre la bonne décision. Tu dois avoir la bonne décision. Sur quoi tu dois demander la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Pas la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ah, même pas à un homme. Qu'il la demande à Dieu. Qu'il la demande à Dieu. Qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Alléluia. Oui. Dieu attend que tu lui demandes. Tu lui demandes. Une autre qualité essentielle chez un leader. Le courage. Le courage, bien-aimé. Le courage, c'est cette qualité d'esprit qui permet à l'homme de rencontrer le danger ou la difficulté avec fermeté, sans crainte ou sans dépression. Le courage. Le courage. Vous savez, les leaders nés ont toujours cet élan de courage dans les décisions qu'ils doivent prendre. Alléluia. Parfois, il y a des décisions que tu dois prendre, c'est dur, hein? Et tu dois être courageux. Tu dois être courageux pour prendre la décision parce que ça va sauver le projet qui est entre tes mains. Alléluia. Même si tu dois perdre des gens sur la route. Même si tu dois perdre des gens. Et les hommes s'attendent à un leader qui est calme au temps de la crise. Amen. Qui est calme au temps de la crise. Qui est calme. Qui est calme. Rappelez-vous l'histoire de Jésus, je crois, dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Alléluia. Marc chapitre 5, on voit Jésus et ses disciples qui traversent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Alléluia. Et pendant la traversée, il y a cette violente tempête. Et la Bible nous enseigne que Jésus est venu en marchant sur les eaux vers ses disciples. Amen. Il est venu. Et ils ont traversé la mer. Mes bien-aimés, non, ce n'est pas l'histoire que je voudrais raconter. L'histoire que je voudrais raconter, c'est celle-là où Jésus s'endort dans la barque. Alléluia. Et au milieu de la tempête, toujours pendant une traversée. Et alors que Jésus s'était endormi, un des disciples a dit que réveille le maître. Lui-même va faire son dernier testament. Ben, c'est grave. Nous tous, on va mourir. Pierre, un péché expérimenté, dit qu'on va mourir. C'est foutu. Et Jésus se lève tout calme. Il regarde la tempête. Il menace la tempête. Et il dit silence. Lui, bien-aimé, un leader doit avoir le courage d'être calme dans la tempête. Alléluia. D'être calme dans la tempête. D'être calme dans la tempête. Bien-aimés, aujourd'hui nous voyons des leaders, quand ils sont au milieu de la tempête, eux-mêmes portent leurs bagages, ils traversent. Alléluia. Non, c'est fort. Et c'est ça que vous allez voir. Je prends une illustration du foyer. Hein. Quand ça pète le feu là, tout le monde dit que je vais divorcer. Je pars. Ben, ça chauffe. Alors un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité, le courage d'être calme dans les moments d'orage pour avoir la bonne réflexion. Alléluia. 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 Pas porter ton sac que tu as mis sur la tête. On se voit après. Alléluia. On se voit après. C'est ça. Il y a des personnes que quand ça chauffe, ils t'abandonnent, ils reviennent quand la tempête est passée. Ils disent, pardon, j'arrive, fini, je reviens après. Amen. Parce que et vous allez voir ça. Chez les hommes, on appelle ça irresponsabilité. Tu vois, il y a des hommes qui ont le don de ne jamais être là quand ça a pris feu dans la maison. C'est comme un don. C'est-à-dire qu'ils sentent le problème déjà à distance. Bam! Ils voyagent. Et la semaine que ça donne, ton téléphone ne passe pas. Hein. Ça va même te tuer. C'est quand tu sors de la tempête que son téléphone passe. Tu veux seulement le tuer. Alléluia. Amen. Une autre qualité essentielle. Ah oui. Et pas un des moindres. L'humour. Oui, mes bien-aimés. L'humour, la capacité à détendre l'atmosphère et la situation. Oui. Vous allez voir des leaders toujours comme si le visage était la pierre, toujours énervés. Ils croient que quand ils sont énervés, ils sont trop sérieux, ils sont trop spirituels. C'est pas vrai. Il faut sourire, il faut rire. Ça apaise ceux avec qui tu travailles. Alléluia. Ça apaise. Maman me disait comment l'autre jour, une de ses collègues lui a dit que chez vous là-bas à Bonaberi, vous faites la fête que chaque jour. Amen. Chaque jour, elle célèbre ses collaborateurs. Quand elle a telle chose, elle les célèbre. Elle est là, elle rit avec eux, elle rigole avec eux, elle discute avec eux. Alléluia. Ça fait qu'ils sont plus détendus pour travailler. Mais si toi, c'est méchant. J'avais mon ami, son père et ses enfants l'avaient donné un nom. Cheb bandit est là. Tout le monde entrait. On l'appelait Cheb bandit. Cheb bandit est là. Tout le monde entre. Alléluia. Ça veut dire que le papa là, on n'était pas en paix avec lui. S'il entrait comme ça, tout le monde était entré et rire au salon. Quand il entre. Tu vois, ça va, chacun comment chercher ce qu'il doit faire. Ça, c'est la crise cardiaque. Ça, c'est pas un papa. Amen. Du coup, lui, il croit que c'est la discipline. Amen. Oh, il est en train de bâtir des rebelles qui n'attendent que le moment où lui sera faible. Et on va le presser aussi. Alléluia. Alors, en tant qu'un leader, tu dois pouvoir, de temps en temps, détendre l'atmosphère. Plusieurs grands prédicateurs possèdent cette qualité et en ont bien fait usage au bon moment. Lorsque vous lisez même les prédications de Jésus, vous voyez des endroits où il raconte des histoires qui font rire. C'est que même le Seigneur là, il était fort. Ben, il savait que l'atmosphère était compliquée. Il faut détendre les gens pour qu'ils écoutent mieux ce que tu es en train de leur dire. Alléluia. Mais si quelqu'un est sous pression et que il est en pleine dépression, tu le mets encore sous pression, tu vas rien avoir. Tout ce que tu vas avoir, c'est un malade cardiaque. Alléluia. C'est un malade cardiaque. Et c'est un traître que tu bâtis. Ben, demain va te traiter. Il sera la première personne à aller dire que tu es mauvais, tu es méchant, tu es satanique. Alléluia. Et donc, quand je parle ici d'humour, je dis aussi que l'humour doit être sain. Amen. On ne doit pas s'intriguer. C'est pas des intrigues. Non. C'est pas des intrigues. On doit se dire des choses qui vont nous aider à prendre la vie avec un meilleur sourire et à pouvoir avancer. Alléluia. Amen. Par exemple, je peux dire à Claire, waouh, Claire, tu as des jolis tresses. Comment tu as choisi que j'ai comme si c'est les paniers? Alléluia. Bon. On en rit. Alléluia. Pour rien. Mais de temps en temps, tu vois clair, tu apprécies. Amen. Tu l'élèves. Ça fait que la non. Ça lui donne plus d'aise pour pouvoir te donner ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de cette personne? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et donc, de temps en temps, tu dois manœuvrer avec cette douceur, cet humour, pour pouvoir ramener la personne. Dis donc, tu te fâches alors? Tu te fâches alors qu'on va faire comment? Toi aussi. Pardon, allons manger d'abord les beignets. Après, on va voir. Ton truc là descend d'abord. Je ne sais rien. Vraiment, toi, la prochaine fois, tu fais comme ça. Laisse, il n'y aura pas la prochaine fois. Assois-toi. Amen. On détend. On détend. On détend. Parce que quand Fillon se regarde, ça va. L'autre va. À la fin, on va dire que quoi, Dieu? Alléluia. Amen. C'est elle qui va, c'est elle qui doit se soumettre. Non, c'est l'autre là-bas, c'est elle qui doit se soumettre. Ok, l'autre là-bas, c'est elle qui doit se soumettre. Non, on va voir qui. Moi, j'ai d'abord raison et moi, je suis. Non. C'est pourquoi je vous dis encore une fois de plus, le leader n'est pas toujours celui qui a raison, hein. Mais c'est celui qui amène tout le monde à la fin de l'histoire, de faire ce pourquoi on les a mandatés. À la fin, qu'est-ce qu'on a demandé de faire? Amen. J'ai raison, j'ai pas raison. Est-ce que le projet avance? Amen. Est-ce que le projet avance? Est-ce que le projet avance? Si le projet n'avance pas, tu as des sérieux problèmes de leadership. Tu as des sérieux problèmes de leadership. Amen. Amen. Regardez par exemple dans une maison. Quand les enfants échouent, on indexe qui? Hein? La mère. Quand les enfants réussissent, on indexe qui? On met au crédit de qui? Le père. Et le père lui-même, quand il sort, ah, voilà tes enfants, hein? C'est comme ça que tu les élèves. Alors que vous êtes deux dans la maison. Mais un leader ne peut pas dire ça. Un leader, selon comme je suis en train d'expliquer, ne peut pas dire ça. Ça veut dire qu'un leader, quand il y a échec, il est responsable. Quand il y a réussite, il est responsable. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Quand ta femme, quand ça ne va pas, tu te tiens aux côtés de ta femme. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, notre fils Dan, il avait cette tendance à vouloir se glisser un peu au milieu de nous pour casser un peu l'atmosphère. Et chaque fois que je sortais de la chambre, il entre pour voir sa mère. Amen. Un jour, j'arrive comme ça. J'ai dit, mon frère, c'est ma chambre avec ma femme. Va dans ta chambre, attends ta mère. Il m'a d'abord regardé comme ça. Il était d'abord choqué. J'ai dit, de deux, c'est ma femme. C'est pas ta femme. Ne la touche plus comme ça. Amen. Il est resté d'abord. Ça fait qu'aujourd'hui, quand il fait un truc, j'ai dit, ah, il dit seulement, ah, papa, il sait que c'est ta femme. Pardon. Il n'y avait pas les problèmes dans ma vie. Alléluia. Il a compris que, il peut pas dire un truc, l'autre n'est pas au courant. Du coup, il est obligé de partager à deux. L'autre jour, il voulait un truc. Il a appelé sa mère toute la journée. Sa mère a dit, ah, mon frère, tu connais là où tu dois appeler. C'est pas mon téléphone. Amen. Mon téléphone n'est pas le bon téléphone. Tu connais le bon numéro. Il m'a appelé le jour là, toute la journée. J'ai eu au moins 50 coups d'appel. Avec numéro différent. Je ne décrochais pas. Vous connaissez quand nos enfants ont besoin d'un truc. Ils te persécutent. C'est la persécution. Tu ne dors plus. J'ai fait que regarder. J'ai dit à maman que mais les appels se sont même venus à quelle heure? Voilà, il y a 10 coups de fil, 10 appels en 5 minutes, 10 bips. En journée, comme s'il avait fait même 50 bips. Après, sa mère dit, mais appelle, essaye d'avoir. Je dis, tu as causé avec lui. Elle dit que oui. Vous savez, les dossiers-là, les mamans sont toujours au courant. Même si elles ne dévoilent pas tout. Amen. Et elle me dit, il faut appeler. Alors, je l'appelle, on t'est sorti, on t'est quelque part, et je décroche au téléphone, je l'appelle. Il dit, mais la première chose, c'est qu'il me dit, c'est, papa, mais depuis, tu es où? Tu as déposé ton téléphone. Donc, il me gronde sur mon téléphone. Que je te cherche depuis. Mais c'est comment avec toi? Tu as mis ton téléphone où? J'ai dit, calme-toi, mon petit. C'est mon téléphone. Et d'ailleurs, qui est mort? Tu n'avais qu'à m'envoyer un SMS. Il dit, non. Bon, j'avais un petit truc là que je voulais te discuter avec toi. Et on a discuté. Et on a discuté. Alléluia. On a pu s'entendre. Alléluia. Amen. Donc, nous réalisons derrière ça que si, même dans ton foyer, tu n'as pas un bon leadership, les enfants vont vous manipuler. Alléluia. On va te faire dire ce que tu n'as pas dit. N'est-ce pas? Tu grattes ta tête. À quel moment j'ai dit ça? Non, tu as dit que, maman, tu avais dit que. Tom, tu es responsable. Tu dis, mais peut-être la vieille est venue plus tôt que prévu. Hein? Donc, on joue dans ta tête. On joue et on marque le but dans ta tête. C'est pourquoi il faut que vous soyez aussi, vous fassiez un bloc pour vous en sortir. Pour vous en sortir. Si vous ne faites pas un bloc, on va vous. Quand ils vont se rendre compte que y a un petit truc qui ne va pas là, les deux si, ils vont exploiter. Ils vont exploiter à leurs frais. Donc ça va faire leur poche. Alléluia. Je ne crois pas que grâce peut faire ça. Alléluia. Grâce ne fait pas les choses comme ça. Grâce est sérieuse. Je connais les gens à la maison qui peuvent faire ça. Emma, je connais les gens qui peuvent faire ça chez toi. C'est pourquoi il faut avoir un. C'est ça le leadership. Nous sommes en train de parler pratiquement. C'est le leadership. C'est le leadership. Amen. Tu dois pouvoir maîtriser ton environnement. Et amener tout le monde à aller dans la pensée que, dans la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Même si tu vas prendre certaines décisions qui vont te faire mal. Ça va faire mal. Je me souviens une année, maman et moi, on a pris la décision de ne pas envoyer Dan à l'école. Ça nous a fait mal. Mais on l'a laissé là. Chaque jour, il vient dans mon bureau. Il se met à genoux. Papa, la dernière fois, j'ai dit que mon fils, tu sais, tu as dit que tu voulais être footballeur, non? C'est le moment. Tu es free. Tu as les godasses là-bas. Cours, prends au statut, cours, tu joues le ballon. Et demain, tu deviens footballeur. Amen. Parce que les choses n'allaient pas dans le sens que Dieu nous avait donné comme vision. Pour lui. On l'a gardé à la maison. Deux ans. Il est calé là. Deux années sans école. Oui. Deux années. C'est ça, prendre aussi des décisions en tant que leader. Ce n'est pas toujours confortable. Alléluia. Mais tu as des objectifs à atteindre à la fin. Tu dois rendre compte à Dieu pour la vie de cet enfant. Tu rends compte comment? Aujourd'hui, il aime l'école mal, mauvais. Sa grand-mère, un jour, elle nous partageait. Elle dit qu'un matin, elle a suivi à l'école. Donc, peut-être une heure de temps, il est parti. Une heure de temps après, elle a pris elle-même la moto. Elle est partie au lycée, à l'improviste. Elle a questionné, est-ce que mon petit-fils, il vient à l'école, etc. C'est le premier qui vient à l'école, oh. Il ne manque aucun cours. Elle dit, hein? Alléluia. Il ne manque aucun cours. Il est là. Même si c'est comment, il est toujours en cours. Aujourd'hui, on connaît la valeur de l'école. Mais c'était des décisions qui n'étaient pas faciles. Amen. Ça faisait mal à sa maman. Ça me faisait mal aussi de le voir à la maison tourner en rond. Amen. Non, ça ne nous met pas à l'aise. Ses camarades vont à l'école le matin, tout le monde se lève et part. Lui, c'est mon balcon, dit, demain, le soir, on se voit le soir, on se voit le soir. Et comme il est tout joyeux là. Et même le premier à t'accompagner jusqu'à l'entrée de l'école et avant de rentrer. Amen. Le jour qu'on lit les résultats, il est le premier à célébrer pour tous ceux qui sont allés à l'école. Toi, tu es même qu'une qualité de personne. Bon, en tout cas, c'est une très bonne. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai toujours aimé cette attitude qu'il a de célébrer les autres. Ça fait preuve de quelqu'un qui n'est pas jaloux dans sa vie. Amen. N'est pas jaloux, il n'est pas envieux. Sauf pour des petites choses. Mais t'as réussi, c'est ta réussite, il la célèbre. Vous imaginez, ses camarades ont traversé les classes supérieures. Lui, il acclame. Il acclame. Il vient dire, papa, tel est en train d'organiser la fête pour sa réussite. Et toi? Et je, il ne parle plus. Papa, tu m'autorises à aller faire la fête là-bas avec eux. Tu fais que tu ailles. Alléluia. Mais prise de conscience. Alléluia. Alors, c'est juste pour dire que, en tant que leader, prendre certaines décisions, c'est pas facile toujours. C'est pas toujours facile. Et il ne faut pas ne pas les prendre. Sous prétexte que tu aimes trop l'enfant. Quand il va savoir que tu le surprotèges, il va en profiter. Amen. Il faut toujours être équilibré dans tes émotions avec eux. Équilibré. Et leur rappeler que tu n'es qu'un surintendant de leur vie. Tu es administrateur des biens de quelqu'un. C'est Dieu qui a envoyé son bien. Et qu'il est obligé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? L'humour, c'est ça que je parle. Alléluia. Et dans tout ça, il faut toujours garder le sourire et la bonne humeur. Ne te sépare jamais de la bonne humeur. Ça va te garder en bonne santé toi-même, en tant que leader. Sinon, tu vas avoir la crise cardiaque, avoir toutes sortes de maladies très tôt dans ta vie. Parce que diriger les gens, ce n'est pas facile. Prendre soin des gens, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si maman saute dit combien de maladies Dieu l'a délivré à cause de ses enfants, vous allez être choqués. Alléluia. Parce que gérer les petits gens là, jusque là où ils sont, mais si tu ne mets pas les genoux à terre, tu vas comprendre que l'affaire là n'est pas facile. Tu vas voir Danny Blanc porter tout le monde, bouger avec. Vous croyez que c'est facile? Il y a des matins, quand elle se lève, elle a envie de les balancer quelque part. Elle se sent piégée. Amen. Une autre qualité essentielle. L'humilité. Oh oui, l'humilité. L'humilité. Le leader n'est pas quelqu'un qui fait publicité pour lui-même, mais qui plutôt s'efface. Alléluia. Qui plutôt s'efface. L'humilité. Bien-aimé, beaucoup des leaders aujourd'hui ont échoué tout simplement. Regardez Saoul. Saül a la royauté l'a échappé. Pourquoi? L'orgueil. 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 La Bible dit que l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Voyez? L'orgueil d'un homme. C'est quoi être humble? C'est reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. Alléluia. L'humilité est la reconnaissance que nos talents et nos capacités sont des dons de Dieu. Sont des dons de Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de leaders ou des personnes qui aspirent au leadership ne comprennent pas que ils ont besoin de s'effacer. Et c'est ce que Jean-Baptiste va dire. Que je diminue et qu'il croisse. Que je diminue et qu'il croisse. Bien aimé. Le but d'un leader, ce n'est pas qu'il soit vu, mais que la vision qu'il porte soit visible. Alléluia. Quel est le projet que tu portes? Chaque jour, on te voit devant. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Il faut que la vision que tu portes soit plus visible. Soit plus visible. Proverbe chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Alléluia. Bien-aimé. Voyez. Un homme humble privilégie la vision qu'il porte plus que sa personne. Regardez l'histoire de Joseph, fiancé de Marie. Matthieu chapitre 1. On regarde ça à partir du verset 18. Matthieu 1, à partir du verset 18, on dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Écoutez le verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, un homme de bien, alléluia, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voyez, l'humilité privilégie la vision plus que sa personne. Alors, aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes. Ils veulent que, ils sont l'alpha et l'oméga. Ils croient qu'ils sont l'alpha. Ils veulent être l'alpha et l'oméga dans tout ce qui est fait. Non. Non. Alléluia. C'est pourquoi les personnes humbles n'ont pas peur, par exemple en tant que pasteur, de confier leur pupitre. Alléluia. À des personnes qu'ils estiment. Vous savez, ce n'est pas facile de donner le pupitre à n'importe qui. Parce que ce que quelqu'un diffuse ici affecte l'église. Et c'est très compliqué de redresser ce qu'il a à le libérer. Alléluia. C'est très difficile. Si je prends n'importe quel pasteur et mets ici, je m'assois là-bas, il balance une certaine parole. Ça va vous affecter. Même si je viens après faire n'importe comment, ça va laisser des traces dans vos vies. Ça va laisser des traces. Alléluia. Ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces. Joseph était un homme de bien. C'était un homme humble. C'était un homme qui savait s'effacer. Vous voyez, dans l'histoire de Jésus, même l'histoire de Joseph montre combien cet homme était un homme effacé. Alléluia. On n'a pas beaucoup de son histoire. On ne sait pas à quel moment il est mort. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait même pas. Mais on connaît juste qu'il a conduit Jésus jusqu'à 12 ans. Et après 12 ans, on n'en parle plus. Alléluia. On n'en parle plus. Ça montre combien cet homme avait un caractère effacé. Et Dieu a trouvé bon de le garder dans le secret. Alléluia. Alléluia. Là, tu veux tout. Tu veux tout qu'on te voit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Un jour, j'ai reçu un couple. Et la femme ne faisait que parler. Quand le monsieur veut parler, la femme prend la parole et parle. Quand le monsieur veut parler, la femme prend la parole. J'ai dit, hey, c'est quel genre de foyer ça? Amen. Non, vous savez, quand vous voyez une personne orgueilleuse, elle veut toujours montrer qu'elle est intelligente. Et qu'elle a la sagesse. L'homme de truc, il dit, oh, comme elle a dit. Amen. Mais bien aimé, quand tu es marié à un homme, même si tu fais cette histoire-là dans le privé, en public, tais-toi. Laisse la parole à ton mari. C'est lui qui te couvre et non toi tu le couvres. Amen. Un homme peut se relever facilement de la honte. Une femme, ça prend du temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme peut facilement se relever de la honte. Mais une femme, ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Alléluia. Nous sommes allés enterrer un pasteur l'autre jour. Sa femme ne parlait pas beaucoup. Quand on rentre, on était dans la voiture, on dit, hé, hey, notre collègue là souffrait. Hé, hey, Jésus. Et on avait une femme de pasteur, l'épouse du président, qui était dans la voiture, elle dit, maman, pardon, ne fais pas ça à mon frère. Elle dit, papa, oh, moi-même, j'ai appris aujourd'hui. Oh. Alléluia. On a dit que non, on doit réunir toutes les femmes de pasteur, les former. N'exposez pas notre corps comme ça. N'exposez pas. Ma tête était là à la veille, pasteur Emma. C'était à la vie. C'était l'homme de truc. On l'a porté à la fin, on l'a mis en haut du bus, on est parti l'enterrer. Quelle honte. Il a construit une grosse maison comme ça, laissée à la femme. Avec piscine, un pasteur. Et tu dis que ton mari ne t'a rien laissé. Et tu instruis tes enfants de venir dire que votre père n'était pas un modèle. Hein? Oui. Il n'était pas un modèle. Amen. Donc vous comprenez que le père d'autrui, Dieu là seulement dit, viens te reposer. Vaillant soldat. Vaillant soldat. Laisse les autres faire le bon chemin. Vous aussi, comment eux aussi vont marcher après nous. Les enfants sont entrés dans la danse. Oh, papa, n'était pas papa. Vous connaissez la responsabilité d'être un père, d'être une mère. Bien-aimé. Bien-aimé. La terre ici, c'est comme une roue. Ça tourne. Et quand ça va revenir sur toi, les mêmes enfants que tu as endoctrinés hier, un des garçons va épouser une femme pire que toi. Elle va te traiter. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Ne le faites pas aux autres. Alléluia. Tous les... Il a construit une grosse église ici à Lopom. On s'est assis comme ça en tant que pasteur. On a dit, qu'est-ce que l'église va devenir? Elle a chassé tous les chrétiens. Père là, hein, il est allé se reposer. Alléluia. Vous voyez? Un autre caractère essentiel. Est-ce que tu es béni? Ah, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es en ligne, est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Je veux savoir si tu es béni. Parce que nous partageons des choses assez importantes. Alléluia. Alors, un autre caractère important, un autre caractère essentiel, la sincérité et la transparence et l'intégrité. Amen. La sincérité et l'intégrité. Et l'intégrité. Amen. La sincérité et l'intégrité. Vous savez, maman m'a toujours dit une chose, et parfois quand elle dit ça, moi je ris toujours. Je ris seulement, je l'écoute. Parce qu'elle ne réalise pas que ce qu'elle dit n'est même pas vrai. Alléluia. Ok. Oui, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Est-ce que je peux vous expliquer? Ok. Que ton cœur ne tremble pas. Amen. Tout va bien. Tu vas être béni. Amen. Amen. Alors, plusieurs fois, et ça se répète même chaque année, elle fait beaucoup d'efforts. Elle fait beaucoup d'efforts. Et elle dit toujours, chaque fois qu'elle se retrouve devant, elle dit, ah, vraiment, il faut que je lise beaucoup les Écritures. Il faut que je lise beaucoup les Écritures. Il faut que je maîtrise plus d'Écritures. Je comprenne plus les Écritures. Oh, chaque fois qu'elle dit ça, je ris. Pourquoi? Parce que je préfère une personne qui applique les Écritures dans son comportement de chaque jour qu'une personne qui récite sans comprendre. Amen. Et la plupart du temps, c'est qu'elle, sa vie, c'est les Écritures. Que ce soit au travail, que ce soit dans ses relations, elle fonctionne à partir des Écritures. Et c'est dans son comportement. Alléluia. Parfois, il vient me dire, j'étais avec tel collègue, j'ai commencé à l'exhorter, je l'ai exhorté, et puis j'ai dit ça, et j'ai prié avec elle. Et tu veux quoi encore de plus? Alléluia. Tu veux encore quoi de plus? Cette parole transforme ton caractère. Et tu le communiques aux autres. Ta vie devient la parole de Dieu. Les gens lisent la parole au travers de ton comportement et de ton caractère. Et c'est ça l'intégrité. La sincérité, c'est quoi? C'est la transparence du caractère. C'est la transparence du caractère. Voyez? Une qualité inconsciente qui révèle l'homme. C'est la transparence de ton caractère. Vous allez voir des gens à l'église, ils sont un dedans, deux dehors. Alléluia. À l'église, ils sont comme ça. Dehors, ils sont comme ça. Et c'est ça, le manque de sincérité. La sincérité ici, vous pouvez également voir cela dans le thème, le fait d'être vrai. Vrai dans ce que vous faites dans la vie. Et non fourbe. Et non fourbe. Un homme, par contre, intègre, est honnête dans sa parole. Honnête dans sa parole. Fidèle dans ses promesses. Fidèle dans ses promesses. Droit dans ses finances. Conscient de ses responsabilités. Sérieux dans son service. Vous voyez? Beaucoup de leaders ne sont pas intègres. Quand ils ont un problème, ils deviennent autre chose. Quand ils ont une situation, ils deviennent autre chose. Vous voyez? C'est pourquoi l'intégrité, c'est ce que Dieu dit de nous. La réputation, c'est ce que les hommes disent de nous. Alléluia. La réputation, c'est pourquoi les hommes peuvent changer ta réputation selon qu'ils ont faim ou soif. Oh, la mer, ah, tu libères. Amen. Demain, quand tu dis, ah, dis donc une sorcière, ah, vampire, ah, vous ne savez pas, l'argent qu'elle nous donnait là, c'était pour nous prendre de la sorcellerie, ça n'a pas marché. Amen. La réputation, c'est ce que les hommes disent de nous. L'intégrité, c'est ce que Dieu dit de nous. C'est pourquoi le Seigneur va dire à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre. Il est intègre. Il est vrai. Il est vrai. Alléluia. En d'autres termes, il est responsable. Es-tu responsable? Alléluia. Es-tu conscient de tes responsabilités? Vous voyez? Il y a des situations en tant que leader qui se passent autour de toi. Tu n'as même pas le privilège de t'énerver. Parce que tu dois être responsable. Garder la tête fraîche pour prendre la bonne décision. Parce que tu as des responsabilités. À la fin. Alléluia. À la fin, tu dois faire comment? Tu dois répondre comment? Alléluia. Et c'est ça, être intègre, être vrai, être sincère. Aujourd'hui, très peu d'enfants de Dieu sont intègres. Très peu de leaders sont intègres. Très peu de leaders sont sincères. 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 La transparence. La transparence. C'est pourquoi à la fin de tout, il y aura toujours des déceptions. Alléluia. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Alléluia. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que tu pouvais penser comme ça. Tu pouvais. Je me suis retrouvé dans une réunion où il fallait réconcilier deux frères en Christ. Et l'un était fâché. Il était très, très fâché. Parce que l'autre, quand il faisait des choses, ne tenait pas compte de ses avis. Et sa doléance semblait correcte. Sauf que dans le désir de pouvoir arranger les choses, on n'a pas forcément, étant conduit par notre désir de voir les deux frères s'entendre, on n'a pas tenu compte de la procédure biblique de la résolution des problèmes. Alléluia! On a donc organisé une séance où tout le monde était là et chacun parlait. Alors, l'autre a dit tout ce qu'il avait dans le cœur. Le premier, celui qui estimait que l'autre l'avait offensé, il a dit, « Ah, tu m'as offensé sur tel. » L'autre notait. Et moi, j'étais assis là, je regardais seulement. Alors, quand la parole a été donnée à l'autre, il a pris, il a commencé à dire, « Bon, premier point, tu as dit, bon, je vais te dire que ce que tu dis n'est pas vrai d'abord. » Ça, c'est allumer le problème. Amen. Amen. Écoutez très bien l'histoire. Après, il s'est retourné vers nous qui étions là. Il a dit que, avant de commencer même, frère, ce n'est pas comme ça qu'on résout un problème. Vous ne devez pas faire. Donc, il nous fait d'abord la morale. Nous, on reconnaît notre tort. Mais nous sommes habités du désir de voir deux personnes s'asseoir, de retrouver leur relation. Donc, pardonne-nous de la procédure, pardon. On n'est pas entre les étrangers, on est entre nous. Amen. Et à la fin, le premier qui a dit, on a fini, on a essayé de faire comme on a fait. L'autre a estimé que il avait répondu sans vraiment reconnaître son tort. Alléluia. Il a dit, bon, ça va. Il a compris sa position. Ok, chacun va fonctionner. Mais c'est des frères en Christ. Et je suis rentré le jour-là triste. Et je disais à moi, et j'étais avec un autre frère, un pasteur. Et je lui dis que frère, moi si j'étais à la place de l'autre, je n'aurais même pas cherché à justifier quoi que ce soit. Je lui ai seulement dit, bro, pardon. L'affaire là, laissons tomber. Pardon. Amen. Vous savez, il y a des situations dans la vie où justifier n'est pas le plus important. Non, ce n'est pas important. C'est aussi un test de ton cœur. Alléluia. C'est aussi un test de ton cœur pour savoir si tu peux aussi descendre. Mais tu vois l'autre en face. Et c'est ça que j'appelle la sincérité dans nos relations. Alléluia. La sincérité. Tu demandes quelque chose à quelqu'un avec qui vous n'avez que des relations d'une minute. Tu veux que Maman Daniel attend de moi que je sois vrai avec elle, alors qu'on se voit qu'une minute à l'église. Mais fréquentons-nous davantage. Là, cette sincérité, je te la donnerai. Alléluia. Alléluia. Et donc, il faut que chaque leader qui veut accomplir la vision du maître doit être quelqu'un de sincère. Et la sincérité, ce n'est pas un diplôme. C'est un caractère, c'est un comportement. Alléluia. Ce n'est pas une récitation. Non, moi, je suis quelqu'un de sincère. Non, ça ne se prouve pas des actes. Je suis vrai. Non, moi, vous voyez, voici comment certains gens définissent être vrai. Être vrai, c'est cracher les choses horribles sur l'autre. Non, moi, je suis vrai. Non, je vais te dire, ta tête est d'abord grosse comme ça. Hein? Après, ton nez est gros. Après, tes oreilles sont élevées comme ça. Après, tu as une grosse bouche comme ça. Non, même si dans la description c'est vrai physiquement, tu n'es pas vrai, tu es méchant. Alléluia. Parce que le but derrière, c'était de blesser l'autre. C'était de causer du tort. Et en cela, tu n'es pas vrai, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Alléluia. L'autre là t'a plu, Suzanne. Voilà. Elle se reconnaît dans la description qu'elle donne aux gens. C'est ce que tu donnes aux gens. Vous voyez. Et vous voyez, parfois, dans la logique de la résolution des problèmes, chacun veut avoir raison. Amen. Or, la sagesse va reposer sur celui qui aura la capacité de chercher d'abord la paix avec l'autre. La paix avec l'autre. Pas avoir raison, mais avoir la paix. Donc, il y a la différence entre avoir la paix et avoir raison. Tu peux avoir raison, mais et ça déclenche une guerre qui ne s'arrêtera plus. Mais en recherchant la paix, même si tu as tort, cette personne demain comprendra qu'elle avait tort en réalité. Pardon? C'est une autre dimension de la sagesse. Alléluia. Vous voyez la situation avec Jacob et Ésaü. Alléluia. Il a fallu 20 ans pour que Jacob comprenne qu'il avait eu tort. 20 ans. 20 ans, sa maman est morte dans cette situation-là. Sa maman, elle est morte prématurément à cause de cette situation. Parce qu'après le départ de Jacob, elle n'a plus eu des nouvelles de son fils. Et Ésaü, pour pouvoir faire du mal à sa mère, est allé épouser des femmes étrangères. Et la Bible dit que le cœur de sa maman est devenu malade. Quelle maman va voir son fils dans un mauvais foyer et être heureuse? Être heureuse. Le chagrin. Mais le jour-là, il avait raison. 20 ans plus tard, quand il a vu son grand frère s'est couché à terre, il s'est couché que je ne veux plus de qui a raison. Tout ce que je veux, c'est la paix. Je veux la paix. La paix. Alléluia. Vous ne pouvez pas savoir combien la paix est importante. Vous saurez que la paix est importante le jour où vous la perdrez. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, dit « Je vous donne ma paix. » Parce que c'est une chose que lorsqu'on perd, aïe, le trouble habite ta vie de manière constante. Tu peux manger le caviar, mais dans ta bouche, c'est amer. C'est amer. À côté de toi, quelqu'un mange du riz blanc avec du sel, mais il est heureux parce qu'il a la paix. Alléluia. Rien ne vaut la paix, mes bien-aimés. Et en tant que leader, tu dois être un chercheur de la paix. Paul dit ça, recherchez la paix avec tous. Recherchez. Recherchez. Et quand tu as la paix, tu manges même librement en route. Mais quand tu n'as pas la paix, en route, tu vas manger. C'est le début de la folie. Tu parles seul. Alléluia. Un autre caractère essentiel qu'un leader doit avoir. Vous serez étonné avec celui-ci. Avec celle-ci. La colère. La colère. Alors, quand on parle de colère ici, on parle de la sainte colère. Amen. La sainte colère est une qualité de Dieu pour corriger les hommes. Amen. Pour corriger les hommes. Pour corriger les hommes. Mais la colère des hommes peut facilement être changée en péché. Alléluia. En tout cas, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alléluia. Oui. Paul dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 26, il dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Mais ne péchez pas. Attention. Attention. Donc, il y a un niveau de colère qui est acceptable. Mais quand la colère prend le contrôle de tes émotions, de tes attitudes, de ton caractère, ça devient le péché. Alléluia. Alors, Dieu lui-même s'est mis en colère, n'est-ce pas? Mais c'était pour redresser son peuple. C'était pour redresser ceux qu'il devait redresser. Et c'était toujours pour les ramener même à la repentance. Alléluia. Alors si tu tapes un enfant dans toute ta colère, tu vas tuer l'enfant, n'est-ce pas? Tu vas tuer. Je vais vous raconter l'histoire. Faut souvent prendre la moto. Hein. Les motomans, là, ils ont des histoires. Alléluia. Et elle m'a raconté l'histoire comment une de ses belles-sœurs a préparé de la viande. Et l'enfant de 3 ans était à côté de lui. Et l'enfant, un moment, s'est levé, 2 ans. L'enfant allait dedans. Elle avait laissé la viande dans la gouttière. Là, l'eau sortait un peu dessus. En attendant de faire frire et de continuer le repas, elle était dehors pour faire d'autres choses. Et puis, elle n'entend plus le bruit. Elle appelle le petit. Le gars répond, oh, la bouche est pleine. Elle dit que mince, le gars entre les mains et la viande là. Elle entre dans la colère. Elle le botte. Le gars allait tomber de l'autre côté. Là, il est mort instantanément. Instantanément. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ce n'est pas ce que je voulais faire. Non, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a pris. Je ne sais. Mais il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi tu dois éviter de te mettre dans un certain état. Tu dois avoir la maîtrise de ton corps. Alléluia. Et ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail. Vous allez voir des personnes dire, c'est comme ça que je suis, hein? C'est comme ça. Non, tu es là satanique. Alléluia. Non, tu es satanique. Si tu es comme ça, ça sache que tu vas aller en enfer. Amen. Parce que si tu es de Dieu, il y a des choses que tu dois évacuer de ta vie. Et la colère de l'homme est meurtrière. Es-tu émotionnellement? Es-tu sentimentalement? Es-tu psychologiquement? Avant de tuer même physiquement. Amen. Et c'est quelqu'un dans la joie. Amen. Merci Seigneur. Quoi qu'on va arrêter pour aujourd'hui comme ça. Amen. Est-ce que tu es béni? Acclame pour Jésus. Alors fais attention à l'état de ton cœur. Fais attention à l'état de ton cœur. Ce que je nous partage, ce n'est pas pour aller remplir nos cahiers, mais c'est un travail sur nous-mêmes. Alléluia! C'est un travail sur nous-mêmes. C'est un travail sur nous-mêmes. Comment Dieu peut-il te confier des choses si tu n'as pas la capacité de gérer toi-même ton propre corps? Alléluia! La Bible dit que celui qui n'a pas la maîtrise de son corps, Dieu ne peut rien lui donner. Dieu ne peut rien lui donner. Alors, fais attention à la colère. Regardez Moïse, notre oncle Moïse, il est où? La colère l'a disqualifié pour entrer dans la terre promise. Alléluia! N'eût été la miséricorde du Seigneur pour qu'il se retrouve plus tard avec Jésus dans le jardin de Gethsémané. C'est la miséricorde de Dieu. Mais la colère l'avait disqualifié au départ. Amen. Donc attention. Attention. Sachons. Fais attention. Il y a un niveau de colère qui t'est permis. Parce que c'est humain. Ça fait partie des émotions comme l'amour, comme la joie, la colère. Amen. Maintenant, il y a un niveau de colère là, quand ça prend pap, c'est Satan qui est assis sur toi. Il a pris le contrôle. C'est après, quand tu auras commis l'acte, tu vas sursauter. Qui va te quitter? De là, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là, fini. Tu as fait l'impensable. Et tu n'auras qu'à subir les conséquences. Les conséquences. Alléluia. Les conséquences. Attention. 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 Et dans la résolution de la colère, il faut toujours chercher des personnes qui ont la capacité d'influencer ta colère. Alléluia. Si tu n'as personne qui influence ta colère, c'est que tu es ingérable. Alléluia. Amen. Si tu es un homme ou une femme qui n'a personne qui peut dompter ta colère, tu deviens une âme à destruction. Une âme de destruction. Si par exemple tu es dans un foyer et que quand tu es en colère, tu ne respectes plus ton mari, tu es une âme à destruction, de destruction. Satan va t'utiliser comme il veut. Si tu es un homme qui dans le foyer, tu n'arrives pas à contenir ta colère, tu vas tuer ta femme un jour. Alléluia, tu vas tuer ta femme un jour. Ce n'est qu'une question de temps où tu es un de tes enfants. Ce n'est qu'une question de temps. C'est la raison pour laquelle il faut contrôler et se rapprocher des personnes qui peuvent influencer cette colère-là. Amen. Et t'aider à faire le travail pour sortir de là. Alléluia. Fais le travail pour sortir. Beaucoup de gens, quand ils sont en colère, ils disent des choses ignobles. Alléluia. Des choses terribles. Parce que l'objectif à ce moment-là que le diable t'assigne, c'est de faire mal. Fais-lui mal. Fais mal. Fais mal. Fais mal. Donc tout ce qui sort, c'est pour détruire. Et le diable n'a que trois missions. Tuer, détruire, égorger. Dans ce moment, tu remplis une des missions. Tu dois remplir une des missions du diable. Détruis-le. Alléluia. Connu un coup comme ça, l'autre a dit des choses vraiment terribles. Le mari est calé comme s'il était, il a failli tomber à terre. J'ai dit, l'homme de truie, il est calé comme ça, il a failli s'écrouler. Parce que les mots qui sortaient, ça l'atomisait. Ça l'atomisait. Alléluia. Et il s'est, à un moment, il s'est ressaisi parce qu'il s'est rendu compte que si je tape cette femme, je vais la tuer. Là, 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 là. Il s'est tient compte de ce qui sort de sa bouche. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Les paroles qui sortent ne sont que la conséquence de ce qui a grandi à l'intérieur. Alléluia. Et parfois on dit des choses sur la vie de tel parce qu'on estime qu'il nous a causé du tort. Tu ne peux pas guérir le mal avec le mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas guérir le mal avec le mal. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Satan ne peut pas se détruire lui-même. Satan ne peut pas combattre Satan. Amen. Donc faisons attention à ces choses-là. Nous continuerons mercredi prochain avec les autres qualités essentielles pour travailler son caractère en tant que leader. Amen.